Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. C'est l'un des quatre grands thèmes du grand débat national lancé par le président de la République dans sa lettre aux Français. C'est aussi le dossier qui a mis le feu aux poudres dans la crise des gilets jaunes qui secoue la France depuis plus de 12 semaines maintenant. La transition écologique est assez bien admise désormais comme une nécessité, mais faut-il encore la rendre possible et notamment financièrement? Car changer de modèle aussi bien énergétique qu'industriel ou agricole prend du temps et des investissements, donc de l'argent qui est difficile à trouver dans le contexte actuel des comptes publics. La France peut-elle financer sa transition écologique? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Véronique Lucas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue rurale, docteur associé à l'UMR Innovation de l'INRA de Montpellier, et vous travaillez sur les conditions sociales et collectives de la transition agroécologique des agriculteurs. Et Michel Lepetit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président de The Shift Project, qui est un groupe de réflexion sur la transition énergétique, et chercheur en histoire économique au LEED, c'est le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, et aussi expert du financement à la transition. La question de la transition écologique vient de se heurter, quelque part, au mur de l'argent dans la crise des gilets jaunes. La taxe sur les carburants a été suspendue pour l'année 2019 et, pour ainsi dire, purement et simplement abandonnée en race campagne. Est-ce que c'est une surprise pour vous, Véronique Lucas?
Non, en fait, on peut faire des parallèles avec l'agriculture, où il y a de plus en plus d'injonctions qui sont adressées aux agriculteurs pour évoluer vers des pratiques plus agroécologiques, comme on dit dans le milieu agricole. Et en même temps, il n'y a pas en face de moyens qui sont accordés aux agriculteurs pour faire cette transition, d'où ce décalage et cette difficulté à avancer dans la transition écologique de l'agriculture.
Michel Lepetit, est-ce que vous vous attendiez quelque part à ce qui s'est passé ?
Disons qu'il y a un débat très lourd sur ce qu'on appelle la taxe carbone, ou plus globalement le prix de l'énergie, et quelle incitation on veut mettre sur le prix de l'énergie pour dissuader des comportements d'utilisation d'énergie carbonée. Sauf qu'on sait que, pour certaines énergies comme le fuel, notamment le diesel, tout ce qui concerne le transport, la capacité qu'ont les gens à se passer de leurs moyens de transport est très très faible. Et on pouvait prévoir ce qu'allait se passer. C'est-à-dire qu'à la fois on a une hausse des prix du pétrole, plus la taxe qu'on a rajoutée a fait que pour la population qui ne peut pas se passer de sa voiture, c'était assez insupportable.
C'est pareil pour les agriculteurs et leurs tracteurs, Véronique Lucas?
Oui, effectivement, c'est aussi une question qui se pose pour une agriculture aujourd'hui fortement mécanisée en France également.
Est-ce que c'est un coup d'arrêt pour la transition écologique en France, selon vous, Michel Lepetit?
Je crois qu'il y a plein de moyens qu'on peut utiliser. Il y a la fiscalité, mais on en voit ses limites, et c'est pas propre à la France. D'autres pays sont touchés, sachant qu'il y a beaucoup de pays qui, de toute façon, subventionnent le prix de l'énergie, tant c'est sensible. Je pense qu'il y a d'autres moyens, c'est la finance publique, et vous l'avez dit, on bute sur des contraintes, donc on en parlera. Et puis il y a aussi mobiliser l'épargne privée. Voilà.
Est-ce que pour vous aussi, c'est quelque chose qui... Enfin, il y a un côté un peu catastrophique dans cette affaire, Véronique Lucas, ou...
Disons que ça a ouvert, en fait, libéré la parole, on le voit chez les Gilets jaunes, mais aussi chez les agriculteurs. Il y a déjà du ressentiment. Du coup, est-ce qu'il s'est d'autant plus exprimé à ces occasions?
Est-ce que c'est une occasion de tout remettre à plat et de réfléchir à un projet peut-être mieux ficelé, Michel Lepetit? Est-ce qu'on n'a pas été un petit peu vite sur cette taxe carbone sans y réfléchir vraiment en amont?
Je pense qu'on n'a pas intégré du tout la volatilité du prix du pétrole et de l'essence. C'est-à-dire qu'on a des contraintes externes qui sont terribles, qu'on a déjà connues dans le passé, qu'on a lourdement subies. Là, c'est vrai que le coup de boutoir qu'on a eu les dernières sur l'augmentation du prix du pétrole, non seulement ça a touché le pouvoir d'achat, mais ça ralentit toutes les économies. Donc on a un sentiment d'exaspération qui est très fort. Il faut trouver d'autres leviers. Les leviers existent. On va parler des finances publiques. Je pense qu'il y a l'argent public qu'on peut utiliser. Après, la contrainte est la contrainte qu'on connaît au niveau de l'Union européenne. C'est la contrainte maastrichtienne. Est-ce qu'on veut ou non dépasser les fameuses limites qu'on nous a imposées? Je pense qu'il existe des moyens. Des économistes comme Alain Grandjean ou Gaël Giraud ont travaillé sur des solutions. Je pense qu'il faut les explorer.
Les gilets jaunes et les automobilistes ont clairement fait savoir qu'ils ne voulaient ou ne pouvaient pas payer. Et vous le disiez à l'instant, Véronique Lucas, les agriculteurs expriment un vrai ressentiment. Qu'est-ce qu'ils vous disent à vous quand vous les rencontrez, vous qui êtes sociologue?
Eh ben, en fait, ils disent que si ils essayent de développer des pratiques agroécologiques, en fait, leurs conseillers habituels ne sont pas en mesure de les accompagner. Leurs fournisseurs habituels ne sont pas en mesure de les approvisionner pour les ressources nécessaires. Donc ils disent, mais nous on veut bien y aller, mais pourquoi c'est si difficile? Pourquoi l'organisation du secteur n'est pas plus aidante pour nous?
C'est-à-dire qu'on leur demande de faire des choses qui, en fait, n'existent pas?
Voilà, on a un véritable décalage entre l'injonction qui leur est adressée et les moyens qui sont mis à leur disposition pour ce faire.
Alors, on va parler évidemment des financements. Vous en avez déjà un petit peu parlé, Michel Lepetit. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent pour financer une baisse des énergies fossiles dans le mix énergétique français, par exemple?
La question de l'argent public et la capacité qu'a la puissance publique à mobiliser l'argent, je pense qu'il y a deux réponses. Est-ce qu'on continue à œuvrer dans le cadre du traité de Maastricht et de se mettre une contrainte qui est omniprésente à Bercy, mais aussi maintenant chez nos parlementaires qui l'ont bien intégré, enfin pour la plupart d'entre eux, et qui disent qu'il n'y a plus de ressources, voilà, les caisses sont vides. Si on admet ça, on ne fait rien. Or, la transition, en tout cas c'est ce qu'on prône et ce qu'on dit au Shift Project, c'est que la transition, elle ne sera pas indolore, ça n'est pas vrai, ça demande d'énormes efforts collectifs, et donc ça impose une énorme solidarité, parce qu'il faut que tout le monde la vive. Et je pense que de ce point de vue-là, la puissance publique et l'État ont un rôle à jouer essentiel.
Ça veut dire que, selon vous, il faudrait peut-être envisager de suspendre les critères de convergence du traité de Maastricht pendant la durée de cette transition écologique?
Très rapidement, il y a deux moyens possibles, c'est qu'il y a certains types de dépenses dont on dirait qu'elles sont hors traité de Maastricht, mais il faudrait que nos voisins outre-Rhin le tolère, ce qui est difficile, et pour l'instant on voit bien que le dialogue européen est un peu en panne, donc c'est bien dommage, mais ce serait une voie qu'on relance massivement de l'investissement en s'affranchissant pour une partie de cet investissement de la contrainte. L'autre solution, et j'invite tout le monde à y réfléchir, mais c'est difficile, c'est le fait qu'on a découvert depuis quand même quelques années qu'on a une capacité au niveau de nos banques centrales à créer de la monnaie de façon vertigineuse. Les banques centrales, et notamment la Banque de France, a racheté pour 420 milliards d'euros de dettes de l'État français.
Ça veut dire que vous suggérez peut-être de prendre les recettes qui ont fonctionné pour sauver le secteur bancaire en 2008, c'est à peu près ça que vous êtes en train de nous dire?
J'en parlais tout à l'heure, il y a des moyens qui sont le hors-bilan, mais rien que dans le bilan, de penser qu'on puisse comme ça créer de la monnaie, parce que la finance c'est quand même de la création de monnaie, qu'on puisse créer de la monnaie, pour l'instant elle n'est pas fléchée, mais on pourrait peut-être en flécher une petite partie pour l'orienter vers cette transition, si on considère que c'est difficile, et si on a des projets notamment délicats, comme dans le monde agricole, il faudra beaucoup de moyens quand même pour cette mutation.
Alors revenons justement à cet exemple des agriculteurs, c'est difficile et coûteux de passer à une agriculture davantage écologique. On parle beaucoup de la difficulté à sortir du glyphosate et des pesticides, par exemple, Véronique Lucas.
Oui, il y a certes un élément de coût. Il s'agit d'investir dans de nouveaux équipements, c'est aussi pas seulement les agriculteurs qui ont besoin d'investir, c'est la recherche qui a besoin d'investir beaucoup plus dans la conception de solutions agroécologiques pour les agriculteurs aussi.
Ça veut dire que pour l'instant, ces efforts-là ne sont pas faits?
Eh bien, en fait, la recherche aujourd'hui est quand même devenue un parent pauvre du ministère de l'Agriculture, par exemple. Et donc, du coup, il n'y a pas effectivement assez. Aujourd'hui, si vous prenez les programmes de recherche européens, par exemple, ceux dédiés aux biotechnologies ont été multipliés par 4 depuis 10 ans. Ceux dédiés à l'agriculture biologique ont stagné.
Il y a des investissements massifs à faire et qui ne sont pas faits actuellement, Michel Lepetit.
Je vais rebondir sur la R&D parce que c'est quand même trop tentant de voir le budget de la R&D sur la recherche en énergie en France, la recherche publique baisser et tomber à 800 millions. Je pense qu'on marche sur la tête. Enfin, c'est juste invraisemblable de penser qu'on réduit le budget de la recherche sur l'énergie quand on voit le défi qu'on a devant nous. Ça n'a strictement aucun sens.
Les énergies fossiles, actuellement, c'est un peu moins de la moitié, 49% du mix énergétique français en 2017. C'est en diminution ou pas du tout, en fait?
Non, mais notre addiction aux énergies fossiles, elle est totale. Pour parler du secteur agricole, j'avais regardé un petit peu, le secteur agricole, c'est plus la moitié de l'énergie qui est du pétrole. C'est quand même, et c'est très difficile parce que les tracteurs fonctionnent au pétrole. Il y a beaucoup de pétrole partout dans l'agriculture, mais il y en a partout dans notre économie. Le transport, à 95%, c'est du pétrole. Donc se passer du transport, ça n'est pas facile. On a un biais dans notre pays parce qu'on a une partie de notre électricité, mais c'est qu'une partie du mix, qui est nucléaire et qui est décarbonée. Donc nous, au Shift Project, on s'en réjouit.
C'est 40%, actuellement.
Ça crée une illusion. D'abord, il y a plein de pays où il n'y aura pas de nucléaire, donc il faudra trouver d'autres solutions. Et puis même ça n'est que l'électricité, ça ne résout pas le problème du transport qui est vertigineux. Rappelez-vous quand même ce qu'on a eu avec les bonnets rouges.
C'était, effectivement, la question de l'écotaxe à l'époque, les manifestations auxquelles avaient participé d'ailleurs pas mal d'agriculteurs en Bretagne, Véronique Lucas. Est-ce que sur la transition agroécologique, le rôle des financements européens, je pense évidemment à la politique agricole commune, qui est une partie importante du budget européen, même très importante, c'est peut-être même la seule politique commune qui a une telle ampleur. Est-ce que le rôle des financements européens peut être amélioré ?
Tout à fait, vous avez raison d'amener sur ce point, puisque il y a vraiment besoin d'une réorientation des subventions publiques qui sont accordées dans le cadre de cette politique agricole commune, qui aujourd'hui, dans une grande majorité, sont très faiblement conditionnées à des objectifs de transition écologique. Et donc, il faut vraiment qu'on passe à une logique de distribution de fonds publics liés à des historiques pour compenser la baisse des prix, etc., à une logique de paiement pour services environnementaux à partir de ces fonds publics, et donc conditionnés à l'avancement vers des pratiques écologiques.
C'est-à-dire que, grosso modo, hein, je vais schématiser un peu volontairement, actuellement, les fonds de la politique agricole commune vont à de la production de masse de céréales, et l'objectif écologique, il n'est pas du tout pris en compte, c'est ce que vous nous dites ?
Il y a eu ce qu'on a appelé des critères de verdissement qui ont été appliqués lors de la dernière réforme de la politique agricole commune, mais qui sont en fait, vu le jeu de tous les compromis qu'il a fallu faire entre les États, l'ambition a été sévèrement revue à la baisse. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas un facteur vraiment significatif de réorientation des pratiques agricoles.
Alors Michel Lepetit, on l'a vu, les taxes nouvelles n'ont pas fonctionné. Oui, vous voulez rebondir ?
Je vais rebondir quand même là-dessus. On va avoir une difficulté que je vois poindre à l'horizon pour la mutation de notre système agricole, qui est une complexité vertigineuse quand je regarde. Moi, j'y connais rien du tout, et c'est vrai que ça me fait très peur. Par contre, je vois qu'on est un très grand pays, et d'autres pays européens ou occidentaux sont des grands exportateurs de céréales, et de perdre en productivité, parce que c'est de la production de céréales à base de pétrole, hein, donc c'est tout est pétrolier derrière ça pour faire tel rendement. Perdre en productivité et moins exporter, il faut assumer après la réalité qu'on va vivre, c'est qu'il y a des pays qui sont très 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 lourdement importateurs. Des pays par exemple comme l'Égypte sont dans une situation dramatique d'importation, et pas seulement
l'Égypte. Qui importe énormément de blé français.
Voilà, donc la France, et depuis maintenant quelques millénaires, en tout cas clairement depuis le dernier millénaire, un des très grands pays agricoles exportateurs de blé, si on le remet en cause, en tout cas il faudra bien réfléchir et se préparer collectivement et internationalement à une situation nouvelle qui sera délicate.
Et que, notamment en raison de l'augmentation de la population mondiale, il va falloir comment est-ce qu'on peut écologiser l'agriculture tout en maintenant des rendements. Je vous pose la question, Véronique Lucas.
De toute manière, nous perdons des rendements aujourd'hui. Le changement climatique entraîne des pertes de rendement, on l'a très bien vu l'année dernière. Donc on est de toute manière sur une baisse tendancielle des rendements. Nous exportons, mais nous importons aussi beaucoup, avec l'absurdité que nous importons par exemple du soja d'Amérique latine et des États-Unis, ce qui fait que nous produisons peu de légumineuses, donc c'est tout ce qui est pois, tout ce qui est luzerne, etc., ici, parce que ces importations-là nous arrivent à peu cher, donc c'est difficile pour les agriculteurs de cultiver ça.
Oui,
voilà. Mais c'est un problème pour nous, parce que nous devons du coup fertiliser nos cultures avec des engrais azotés issus des énergies fossiles, alors que si nous avions plus de légumineuses dans nos rotations, nous serions moins dépendants de cette énergie fossile.
Alors je reviens à ma question, Michel Lepetit. Les taxes nouvelles n'ont pas fonctionné, écotaxes, taxes carbone. Est-ce qu'il est possible, comme le suggérait Véronique Lucas il y a quelques instants, de créer des incitations, des espèces de bonus écologiques pour les particuliers, pour les entreprises?
Alors, il y a déjà beaucoup de bonus, il y a déjà beaucoup de systèmes d'incitation, mais le paradoxe qu'on voit qui est vraiment
consternant... C'est qu'il faut les financer peut-être.
Non, mais même pas. Je veux parler de l'environnement général, de taux d'intérêt qu'on a. On n'a jamais eu depuis 1000 ans des taux d'intérêt aussi bas. Ils sont même devenus négatifs, ce qui, pour un financier comme moi, quand je me lève le matin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un taux d'intérêt négatif? C'est quand même un peu compliqué à appréhender, et personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Ceci dit, on est là-dedans. Par exemple, le taux d'intérêt à 10 ans pour l'État français, c'est 0,7, mais le taux à 8 ans pour l'État allemand, c'est 0. Donc toute la gamme des taux avant 8 ans pour l'État allemand, elle emprunte à taux négatif. Ça veut dire qu'on lui rend plus d'argent qu'on l'a prêté, ce qui est quand même un peu surprenant.
La confiance dans les finances publiques.
Ça voudrait dire une chose, c'est qu'on devrait pouvoir faire beaucoup plus de projets qui soient rentables à ce niveau de taux-là, parce qu'on peut emprunter très facilement, l'argent ne vaut plus rien, et en fait, il n'y a pas tant de projets. Donc même cette baisse des taux qui devrait favoriser la transition, ça ne suffira pas. Il faudra aller plus loin. Donc je pense qu'il faut réfléchir, il faut être disruptif, comme on dit maintenant, pour être tendance, il faut trouver d'autres solutions, envisager d'autres procédés, et il y en a un sur lequel on a travaillé, nous, beaucoup, là, récemment, c'est mobiliser l'épargne privée. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de l'épargne publique, et notamment la possibilité de la Banque Centrale de favoriser l'émission de dette, parce que la Banque Centrale prendrait cette dette dans son bilan. Après, la Banque Centrale, c'est nous, hein, c'est les 65 millions de Français. Je pense qu'on peut regarder aussi sur l'épargne privée, là, on a fait une proposition récemment d'amendement de l'épargne privée principalement, c'est l'épargne d'assurance vie. Il y a 1700 milliards dans l'assurance vie.
C'est le placement préféré des Français.
Voilà, c'est la sécurité. Donc l'idée elle est toute simple, c'est de faire en sorte qu'on crée un nouveau contrat d'assurance vie qui soit vraiment long terme. Pour l'instant, l'assurance vie n'est pas de long terme, elle est très très liquide. Donc on bloquerait cette épargne à long terme, on l'orienterait le plus possible via des labels qui existent vers la transition. Et ce qu'on proposerait, c'est que l'ancienne épargne puisse être transférée dans cette nouvelle épargne. Et ce qu'on voudrait, pour finir, pour boucler le tout, c'est que l'État s'engage sur le capital qui serait avancé par les Français dans ce cadre-là. Donc il y a une sorte d'alignement sous l'égide de l'État, un alignement pour faire de la vraie épargne transgénérationnelle, c'est-à-dire que vraiment les vieux qui ont l'épargne financent et aident les jeunes à s'accommoder d'un nouveau monde.
Véronique Lucas, est-ce que vous, avec les agriculteurs que vous côtoyez, que vous fréquentez, que vous interrogez, vous avez le sentiment que c'est très facile d'emprunter de l'argent pour faire évoluer son exploitation ?
Non, mais surtout pour ceux de plus en plus qui rentrent dans le métier d'agriculteur, qui ne sont pas issus de familles agricoles. Il leur faut du coup accéder au foncier agricole, qui est la base en fait pour pouvoir être agriculteur.
C'est-à-dire qu'il faut racheter des terres quoi, quand on n'en hérite pas de ses parents, c'est ça que
voilà,
ça veut dire.
Exactement.
Et ça coûte cher.
Et ça coûte cher. Et du coup, quand une terre se libère, comme on dit, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à l'acheter et qui ont beaucoup plus de moyens que ces jeunes nouveaux entrants dans le métier. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plutôt un mouvement d'agrandissement des fermes plutôt que de transmission à des jeunes.
Est-ce qu'on pourrait, et je m'adresse à vous, Michel Lepetit, vous voulez réagir
sur ce que vous... Une chose qui est extraordinaire du côté de la forêt ou du côté de l'agriculture, c'est qu'on a un rendement, on parle de l'économie réelle, mais là c'est l'économie réelle de chez réel. Voilà, c'est du vrai de réel, ça produit tout seul, en tout cas pour la forêt, et ça produit naturellement pour ce qui est de l'agriculture qui produit des céréales ou autres. On a des rendements qui peuvent être pour la forêt de 1 ou 2% naturels. Quand on pense que les taux d'intérêt sont tombés en dessous de ces niveaux-là, ça interpelle. Ça veut dire que l'économie réelle reprend le dessus. On a plus de rendement maintenant dans la réalité de produire des biens agricoles ou forestiers que dans l'économie où l'argent erre parfois dans des projets qui peuvent paraître un peu spécieux.
D'où une forte spéculation aujourd'hui, oui, notamment sur le foncier agricole et qui est problématique.
Oui, parce que y a les terres agricoles qui sont de plus en plus rares, hein, puisqu'elles disparaissent tout simplement au bénéfice de l'urbanisation. Est-ce que, Michel Lepetit, l'idée de renchérir les prix de la tonne de CO2 sur le marché du CO2, du droit à polluer, tel qu'il existe actuellement en Europe, ça peut être une idée pour financer davantage de transition écologique ?
Je pense qu'il faut envoyer des signaux, et les signaux devraient être clairs. Malheureusement, depuis le protocole de Kyoto, qui est quand même assez vieux, on s'est pas mal planté collectivement à faire croire ou à inciter les gens à faire croire qu'il y aurait un vrai prix du CO2 et qu'ils pourraient anticiper pour faire leur projet. Donc on peut toujours rêver. J'ai du mal à le croire. Je pense que le système a été verrouillé dès le début. On va continuer à travailler dessus. J'aurais quand même abordé un autre sujet de la finance, parce qu'il y a le sujet de l'incitation. Et je vois qu'il a ses limites. Je pense que ce serait à l'État plus de diriger en disant où on veut aller plutôt que de penser que le marché, dans sa grande sagesse, avec un signal très hypothétique, ira. Et une autre dimension de la finance qui me semble très importante, c'est ce qu'on appelle l'assurance, qui est très très prégnante dans le secteur agricole. On a un sujet d'assurance agricole qui est très fort. Je pense qu'il faut qu'on se repose tous la question, par rapport au changement climatique, de ce que va être le système assurantiel, quel est son rôle, quelle est la mutualisation. On a en France, de très très loin, le meilleur système assurantiel du monde, avec notre système des catastrophes naturelles, avec une bonne mutualisation. Après, ce système va être sous stress permanent, notamment en France, notamment dans les dom-toms, ça va être extrêmement prégnant. D'ailleurs, on va revoir la loi sur les catastrophes naturelles suite aux événements tragiques qu'on a connus ces temps-ci, et les choses vont s'amplifier.
Dans les Caraïbes, effectivement.
Exactement. Donc, préparons-nous à un système de solidarité qui tienne vis-à-vis du monde agricole et aussi vis-à-vis du monde des dom-tom, qui est un système financier de très bonne qualité.
La finance verte, on en est où ? C'était un des grands sujets des accords de Paris, Michel Lepetit, en quelques mots. Allez-y, oui.
En deux mots sur les finances vertes, je pense qu'il y a un décalage assez fort entre la prise de conscience elle remonte quasiment à 3 ans, ce qui est un peu tragique parce que le sujet climat est plus vieux que ça, et la réalité de ce qui se fait. Ce qui se fait pour l'instant, ça reste quand même beaucoup. Enfin, ce que je dis à tout le monde, c'est que le prix de l'essence est très très bon marché pour l'instant, et la peinture verte est très bon marché aussi.
Merci Michel Lepetit, merci également Véronique Lucas. La peinture verte est bon marché, on aura appris ça pendant cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Déborah Lepage à la coordination,
merci
Simon Carteret à la documentation et à la réalisation. Aujourd'hui, Valentin Vaner. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.